Bonsoir, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Ce soir, un entretien téléphonique avec la harpiste Anaïs Godemard. Anaïs, bonsoir.
Bonsoir Frédéric Huttman.
Alors, cet entretien était l'occasion de la parution d'un disque magnifique consacré à trois compositeurs aussi éloignés dans les styles que dans le temps, Ginastera, Debussy et Boieldieu. Un disque qui vient de paraître chez Claves, des concertos pour harpe. Vous êtes aux côtés de l'orchestre de l'Opéra de Rouen-Normandie dirigé par Léo Hussin. Comment est venue l'idée d'allier ces trois compositeurs, ces trois compositions?
Alors, l'idée principale du disque, parce que c'est en effet trois compositeurs au style bien distinct, mais ils ont en commun qu'ils sont trois compositeurs non harpistes. Voilà, donc ils écrivent chacun à leur façon donc ces trois œuvres phares du répertoire pour harpe, qui sont trois œuvres originales pour la harpe, de trois époques différentes, et il voit l'instrument d'une autre façon, je pense. Disons que il lui donne une beauté nouvelle, je pense, et ils sortent ainsi des conventions de jeu.
Et alors, excusez-moi de vous interrompre, justement, quand il y a des œuvres qui sont composées par des compositeurs harpistes, vous parlez de convention, vous voulez dire qu'il y a une manière de faire briller ou de faire jouer l'instrument qui est différente?
Eh bien, peut-être que le compositeur harpiste lui-même va aller vers des façons plus convenues ou bien qui oui qui auront peut-être en effet pour but de promouvoir la virtuosité de l'instrument ou je ne sais pas ou, mais l'intérêt des compositeurs qui ne sont pas harpistes eux-mêmes, c'est qu'ils sont peut-être moins embarrassés par le côté technique de l'instrument.
Et alors, est-ce que techniquement,
Et
justement, pour
puis.
vous, c'est plus difficile de jouer cette musique qu'une musique qui est écrite par un harpiste?
Oui et non. Oui et non, mais disons que. Ça, c'est pas des questions que je me suis posées quand j'ai choisi ces pièces. Parce que. C'est vraiment voilà trois musiques qui sont et puis de toute façon c'est les plus belles pages de musique enfin, parmi les plus belles pages je trouve de musique écrite pour la harpe et ce n'est pas exactement les questions que je me suis posées, c'est plutôt je suis allée vers les œuvres et évidemment qui sont celles de compositeurs de premier plan.
Oui, alors premier plan, bien sûr, au cœur de ce disque, il y a Debussy avec ses deux danses pour harpe. C'est très particulier la manière dont Debussy a composé cette œuvre. C'était pour une harpe de Pleyel qu'on ne joue plus guère actuellement.
Oui, absolument, elle est tombée dans l'oubli en fait. C'est ce qui rend l'œuvre absolument unique en son genre, qui est une partition immense. Déjà, par sa raison d'exister, elle est unique, car il faut que je vous raconte la petite histoire de cette grande œuvre.
Allez-y, allez-y.
C'est en fait la firme Pleyel, donc, que l'on connaît surtout pour sa facture de piano et sa salle, qui fait beaucoup polémique en ce moment. La firme Pleyel va commander en 1904 une œuvre à Claude Debussy pour promouvoir en fait son nouvel instrument, qui est la harpe chromatique, qui est une invention de Gustave Lyon, pour qui est dédiée l'œuvre d'ailleurs. Et donc, ce Gustave Lyon, il avait fait breveter en 1894, donc quelques années avant, une dizaine d'années avant, sa harpe chromatique pour concurrencer l'harpe diatonique, l'harpe à pédale en fait, que l'on joue aujourd'hui. Et donc, Claude Debussy va composer les danses sacrées et profanes pour harpe chromatique et orchestre à cordes. Et aussi ceux pour les concours du Conservatoire de Bruxelles, voilà, pour en fait mettre en pratique cette invention. Et ce monsieur, Gustave Lyon, il était inventeur d'instruments de musique, il a aussi inventé l'harpe éolienne, le piano double, donc voilà, il était assez particulier et. voilà, et malheureusement, sa harpe chromatique, elle aura. Enfin, elle aura un peu de succès, enfin, très peu de temps.
Et vous, vous avez déjà joué ses œuvres sur cette fameuse harpe chromatique?
Alors, la harpe chromatique, j'ai eu l'occasion d'en voir, d'en essayer. Donc, il faut que je vous fasse un petit peu le portrait. Il m'est très difficile d'en jouer parce que c'est carrément réapprendre un instrument. Pour faire simple, en fait, c'est une harpe qui a une double rangée de cordes qui se croisent. Donc, vous voyez déjà, vous voyez souvent les pieds des choses en double. Il a inventé le piano double. Bon, voilà. Et là, on a la rangée de cordes double. Donc, il y a un plan de cordes qui est pour les bécards et un autre pour les bémols et dièses.
Et donc c'est vraiment une technique qui n'a rien à voir. Alors vous, vous jouez aujourd'hui bien sûr sur la même harpe les trois œuvres qui sont sur ce disque. Alors ça s'ouvre par le concerto de Ginastera, qui est une œuvre qui a été composée dans les années 60, à l'attention, je crois, de Nicanor Zabaleta, Anaïs Godemar.
Oui, ben Nicanor Zabaleta, c'était un harpiste remarquable, un harpiste espagnol. Et donc il y a d'autres compositeurs d'ailleurs qui ont écrit pour lui, créer d'autres œuvres à son attention. Il y a Darius Milhaud, il y a son compatriote Joaquin Rigaud, et aussi Villa-Lobos.
Oui, Beau Palmarès. Donc. Et alors, Beau Palmarès, je dis Anaïs Godemar.
Ah oui, bah, c'est un interprète qui a vraiment suscité un apport de répertoire considérable, oui, et qui lui-même composait d'ailleurs, et voilà.
Il fait donc partie de. Et est-ce que vous faites partie justement de ces interprètes qui suscitent de la création, ou alors là c'est encore prématuré d'en parler?
Très peu, enfin un petit peu, mais parce que moi-même je vais vers les compositeurs parce que cela m'intéresse. Donc là par exemple, je suis dédicataire d'une œuvre. Un compositeur français qui s'appelle Pierre-Adrien Charpie, qui a composé une œuvre pour harpe et électronique. Voilà, donc on vient tout juste de l'enregistrer.
Ah ben on a hâte d'écouter
puis,
ça.
Oui. Puis plus tard cet été, je vais créer une œuvre, un septuor, donc de Esteban Benzekri. Et d'ailleurs, c'est intéressant de le dire parce que c'est un septuor pour flûte, harpe, flûte, clarinette, pardon, quatuor à cordes et harpe. Et ça fait écho à une autre pièce phare du répertoire pour harpe, qui est l'introduction et allegro de Maurice Ravel. Voilà. Donc.
Oui, alors, immense chef-d'œuvre de Ravel. Oui, je vous écoute.
Oui, et d'ailleurs, ça fait écho aussi à ce qu'on a dit sur les danses de Debussy, parce qu'en fait, cette joute, cette rivalité entre la firme Pleyel, mais je n'ai pas cité la firme Erard, hein, ce qui est très important, parce que, en fait, les deux maisons étaient concurrentes, et la firme Erard passa, quant à elle, la commande en 1905, de cette pièce de Maurice Ravel, justement, l'introduction et l'allegro. Voilà.
Donc deux des plus grands chefs-d'œuvre. Oui, deux des plus grands chefs-d'œuvre pour votre instrument ont été composés.
Absolument.
À si peu d'années de distance. Mais alors, quand vous parlez d'un compositeur, Benzekri ou d'autres, qui composent, c'est la harpe, bon, quand ils composent pour le piano ou d'autres instruments qui leur sont peut-être plus proches, la harpe, ils travaillent avec vous, comment ça se passe?
Alors, ça dépend. Par exemple, avec Pierre-Adrien Charpie, on a carrément écrit l'œuvre en même temps, même si évidemment je n'ai pas pris de stylo pour écrire, mais on a vraiment cherché, c'était une autre démarche, parce que il y avait un instrument qui sera ajouté, qui est l'électronique en réalité, et qui est un instrument vivant si on l'utilise en temps réel. Et là, il y avait eu vraiment un processus d'écriture en commun. Et ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a des compositeurs qui sont déjà familiarisés avec l'instrument. Donc Esteban Benzekri, par exemple, de son côté, a s'est très bien approprié le langage artistique. Donc, à part quelques corrections que l'on doit faire dans les prochaines semaines, c'était vraiment déjà...
Bien. Et alors quand on revient au concerto de Ginastera, qui est magnifique, hein, qui est assez spectaculaire, particulièrement le troisième mouvement avec des percussions, il y a des problèmes d'équilibre quand même pour un instrument comme le vôtre, parce que quand on écoute Debussy, bon, vous êtes avec les cordes, c'est déjà un problème d'équilibre, mais quand vous êtes dans le Ginastera, qui est si spectaculaire, quelles difficultés cela peut poser?
Alors, le concerto opus 25 de Ginastera est si bien écrit que justement la réponse sonore que donne la harpe n'est pas du tout écrasée par l'orchestre, qui lui-même est très dense. L'orchestration est dense et l'effectif, parce que l'effectif est conséquent, les percussions notamment sont nombreuses. Mais non, on ne souffre pas
De cette masse
comment dire, de cette
orchestrale.
envergure. Non, non, parce que c'est très bien écrit. Donc, il y a un dialogue. En fait, il a écrit ça d'une façon question-réponse, en fait. Donc, non, on n'est pas écrasé par l'orchestre.
Et alors, il y a ce fameux troisième mouvement avec cette cadence
Oui.
longue que à la harpe seule, Anaïs Godemard.
Oui, alors le troisième mouvement, donc Liberamente Capriccioso, ça c'est il est introduit en fait par une longue cadence solo qui est ce Liberamente, et puis le Vivace, donc dans lequel rentre l'orchestre. Et bien là-dedans, l'harpe, elle est traitée comme une guitare. Une guitare, d'ailleurs, c'est normal parce que l'instrument emblématique de la musique folklorique argentine, c'est la guitare. Donc ici, elle est traitée de cette façon. Alors que dans le premier mouvement, l'Allegro giusto, elle est comme un instrument de percussion en fait. Elle joue un rôle rythmique. Donc voilà, il y a un langage musical qui est riche, je trouve, dans ce concert.
Ce concerto, d'ailleurs, si je me trompe, vous le donnerez à Hong Kong au mois de mai. Anaïs Godemard, vous êtes déjà allé jouer à Hong Kong?
Non, ce serait la première fois.
Et vous allez jouer ce concerto? C'est eux qui vous ont demandé ce concerto de Ginastera?
Oui, c'est eux qui en avaient envie. Voilà. Donc j'espère que ça leur fera plaisir.
Oui, formidable. A priori, il n'y a pas de question qui se pose. Mais alors, vous donnerez également des masterclass. C'est quoi, vous parce que vous faites l'écho d'une tradition française. C'est la raison pour laquelle on vous a sollicité aussi là-bas.
Sans doute, sans doute, je l'espère, tel qu'il peut-être voit cette tradition française, ce savoir-faire, entre guillemets, mais j'espère leur apporter ce qu'ils pensent avoir besoin, voilà.
Très bien. Et alors, il y aura aussi toute une série de récitals, notamment le Festival de Radio France. Quel répertoire vous choisissez? Si on vous laisse la bride sur le cou, Anaïs Godemard, on vous dit en récital seul, vous choisissez vous-même votre répertoire. Vous allez alterner les pièces écrites originellement pour harpe avec des adaptations, ou comment ça se passe?
Par exemple, oui, cette année, j'ai assez peu de transcriptions et d'arrangements, donc je me contente déjà du répertoire original pour harpe. J'ai choisi du Gabriel Fauré, du In the Minute, Paris Chalvar, Elias Paris Chalvar, qui était un compositeur harpiste aussi, lui-même. Henriette Relier, dont je pourrais vous parler encore.
Bah vous pouvez en parler parce que c'est une personnalité
Longtemps, oui,
importante de la harpe.
c'était une harpiste virtuose, une grande pédagogue, compositrice également, qui a beaucoup œuvré pour son instrument, qui voilà, nous a laissé des œuvres et une méthode pour l'art remarquable. J'ai choisi aussi cette année de jouer du Scarlatti, Domenico Scarlatti.
Et alors, excusez-moi de vous interrompre, quand on passe d'une œuvre qui est écrite initialement pour le clavecin à l'art, il y a un travail de transcription important à effectuer?
Là, il n'y en a eu aucun. Oui,
Ah bon.
je joue la partition telle quelle. Donc, je pense qu'on ne parle pas de transcription dans ce cas-là.
Ah d'accord, donc juste vous jouez la partition, mais alors vous écoutez beaucoup l'œuvre au clavecin avant, ou alors vous prenez la partition en essayant d'oublier justement le clavecin?
Eh bien, j'en ai écouté de nombreuses pour les choisir d'abord. Donc, oui, je les ai écoutées au clavecin, je les ai écoutées au piano également. Et en fait, on peut en jouer vraiment beaucoup, peut-être toutes, mais je ne vous cache pas que je n'ai pas essayé
Les
de toutes les
555, oui, ça
jouer.
fait beaucoup.
Elles sont nombreuses.
Et alors, Anaïs Godemard, un des événements qui vous a révélé au grand public, c'est en 2012, le premier prix au concours international d'Israël, donc un des concours de harpe les plus importants.
Absolument. Ouais. Moi, ça m'a permis de faire mes premières armes en tant que soliste, c'est-à-dire de jouer en concerto. Et puis, le concours aussi offre un très beau cadeau qui est une harpe. Voilà, une très belle harpe de grande valeur. Donc,
C'est
qui
une harpe qui
m'accompagne.
vient de Chicago, je crois, alors.
Oui, c'est une harpe qui est fabriquée aux États-Unis, à Chicago, absolument. Et de voilà.
Et alors donc c'est quoi? Parce que les luthiers, par exemple, quand vous avez, enfin question idiote, hein, mais excusez-moi, c'est un domaine qui me reste assez mystérieux. Vous avez un problème avec votre harpe. Comment ça se passe avec vos rapports? Vous avez un luthier à Paris que vous venez voir régulièrement? Comment ça se passe?
Alors, oui, d'abord, il y a plusieurs facteurs de harpe. C'est-à-dire, il y a trois maisons principales dans le monde, une en Italie, aux États-Unis et en France. Et heureusement, ils ont leurs antennes à l'étranger. Donc, il m'arrive régulièrement de faire réviser ma harpe. En effet, bon, moi, j'ai la chance d'habiter à Paris, donc là, j'ai un luthier de harpe, mais en effet, c'est une question qui régulièrement se pose pour réaliser ses concerts même, hein, pour se rendre dans des endroits pas forcément équipés, en louer, en déplacer, en réviser. Donc, mais en fait, c'est un instrument qui, je crois, gagne du terrain et se répand de plus en plus. Donc, peut-être que ce sera de moins en moins compliqué pour les générations à venir, j'espère.
Oui, mais alors comment ça se passe? Parce que quand vous jouez à un endroit où vous pouvez vous rendre avec votre harpe en voiture, excusez-moi pour ces questions pratiques, mais c'est un instrument qui pour nous est tellement impressionnant, pas seulement au niveau de la musicalité, mais aussi au niveau de l'objet, qu'on se demande pour des questions pratiques comment vous faites, par exemple, quand vous vous rendez pour jouer dans un lieu où vous ne pouvez pas accéder en voiture et transporter votre propre harpe, il faut aller dans une ville où il y a un orchestre qui a lui-même ses harpes, comment ça se passe?
Il m'arrive de déplacer en effet ma harpe dans ma voiture.
Oui, mais alors vous allez jouer à l'étranger, dans un endroit inaccessible en voiture. Comment vous faites s'il faut trouver un
Je
endroit où il
crois
y
que je ne
a
sais pas.
un pour le moment.
Dans ces cas-là, malheureusement. Bon, après, il ne m'est jamais arrivé de refuser de devoir décliner un concert pour ces raisons-là, mais c'est des raisons pratiques qui se posent, mais je pense même pour d'autres instruments. Enfin, bon, pour le piano, par exemple, c'est peut-être la même chose.
Oui, mais là, quand vous allez jouer à Hong Kong, par exemple.
Ah oui, pardon. L'orchestre en possède une, donc.
Alors, vous vous retrouvez
L'orchestre
avec un
avec
instrument que vous ne connaissez pas a priori, et c'est.
Oui, on s'adapte régulièrement en fait, comme les pianistes. On a beaucoup de similitudes avec les pianos, les pianistes, la musique pianistique, voilà.
Oui, et alors c'est vrai qu'il y a quelque chose de très impressionnant aussi quand on assiste à un récital de harpe seul. Alors, contrairement au pianiste, vous vous retrouvez face au public. Et justement, ça induit un rapport différent avec le public quand même. Vous êtes face, vous êtes sur la scène seule, Anaïs Godemard, vous vous retrouvez face au public, alors que le pianiste, lui, il est de profil, il a moins ce rapport de regard avec le public. Mais peut-être que c'est une question abstraite, non?
Sans doute, on peut également se mettre de profil. Des artistes le font. Je suis habituée maintenant, je ne sais pas. D'autres instruments ont la même. Comment dire, la même.
Relation.
Visibilité, oui.
Alors, on va s'éloigner de ces questions qui sont parfois peut-être d'une tonalité un peu absurde ou abstraite, pour rejoindre votre disque Ginastera de Bussy-Boieldieu. On a parlé du concerto de Ginastera, cette œuvre de 1965, des danses pour arbre de Bussy, 1904 de mémoire. Et là, on aborde une œuvre du tout début du 19e siècle, le concerto de Boieldieu. Boieldieu, on le connaît mieux pour ses opéras, notamment la Dame Blanche, Anaïs Godemard. Et ça, c'est une œuvre phare aussi du répertoire de harpiste.
Le compositeur en lutte majeur.
Oui, tout à fait.
Oui. La Dame Blanche également, hein, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai.
Oui, la Dame Blanche a connu un énorme succès avec des représentations triomphales. Elle est même un succès international. Hein, mais oui, il faudrait parler un petit peu du compositeur. Peut-être que on le connaît moins évidemment que Claude Debussy et Alberto Ginastera. Malheureusement, pourtant, il était le compositeur le plus marquant en France pendant le premier quart du 19e siècle, parce que il était une des principales figures de la tradition de l'opéra comique. Voilà, donc nous, notre nous, je dis nous les harpistes, notre concerto en lit majeur est vraiment phare dans notre répertoire. Donc, ce compositeur ne démérite pas pour nous, voilà. Et d'ailleurs, il a été qualifié parfois, souvent, de Mozart français, voilà. Donc, toute proportion gardée. C'est quand même un artiste distingué, je pense.
Oui, oui, c'est de la très belle musique. Et vous la jouez aux côtés de l'orchestre de l'Opéra de Rouen, et ce qui n'est pas non plus anodin, puisqu'il était de Rouen, Boieldieu. Mais c'est une coïncidence.
Oui, alors, non. Non, c'était une évidence, en fait. Parce que. C'était tout simplement évident quand j'ai choisi ce programme et que j'ai rencontré l'orchestre de Rouen d'enregistrer le concerto de Boieldieu. Voilà, il était rouennais, son cœur est inhumé encore à Rouen, il a fait toutes ses études musicales à Rouen, donc voilà, il y a même un pont à Rouen qui porte son nom.
Ce qui est d'étonnant, quand vous évoquez ces chefs-d'œuvre que sont les danses pour arbre de Bussy que vous avez enregistrées, ou l'introduction à l'Allegro de Ravel, et puis vous parliez tout à l'heure de Forêt que vous jouez également en récital, on pense à Caplet ou à d'autres. Ce qui est incroyable, c'est la floraison de chefs-d'œuvre pour harpe au début du XXe siècle en France, quand même.
Tout à fait. Oui, c'est remarquable. Et c'est dû à la facture de l'instrument aussi, qui avait évolué et voilà, donc d'ailleurs vous parlez d'André Caplet et bien lui aussi il avait composé en fait sa première version du conte fantastique pour harpe chromatique.
Ah oui, donc mais là vous la jouez aussi
mais là elle a été rapidement évidemment aussi adaptée à la harpe à pédale que l'on joue aujourd'hui dans les orchestres.
Mais au niveau de la partition, puisqu'on parlait des danses pour arbre de Debussy, là vous parlez de cette œuvre de Caplet, c'est la même partition que vous avez besoin d'adapter quand vous jouez sur votre harpe aujourd'hui, ces œuvres écrites pour la harpe chromatique?
Alors, je pense pas qu'on parle de transcription, non. D'ailleurs, il y a eu quand même une deuxième édition de la partition chez Durand. Donc, d'ailleurs, Jacques Durand était un très bon ami de Claude Debussy, il écrivait dans ses correspondances « Mon cher Jacques », ici « Votre vieux dévoué », bon, ils étaient très très proches. Et donc, il y a cette deuxième édition des danses de Debussy en 1910. Et en fait, dans la partition, c'est écrit annoté et doigté pour la harpe à pédale par Henriette Renier, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui, voilà, donc, c'est pas vraiment une transcription, parce qu'une transcription, c'est quand l'instrument sur lequel on veut jouer l'œuvre n'a pas,
ouais, pas
les mêmes caractéristiques techniques. Enfin, dans la partition, rien n'est changé, voilà.
Anaïs Godemar, on parle de votre carrière soliste, on parle de récital, on parle de concerto, et vous arrivez aussi de jouer au sein d'un orchestre. C'est vrai qu'il y a quelque chose de féerique, toujours quand on entend la harpe apparaître dans une œuvre de Mahler, Debussy, Ravel ou d'autres. Et vous, c'est quoi votre répertoire d'orchestre qui vous rend vraiment heureuse quand vous êtes au sein de l'orchestre ?
Eh bien, je pense que justement, Claude Debussy, Maurice Ravel, tous ces génies de l'orchestration ont parfaitement saisi les couleurs instrumentales et cette musique aussi, mon blues vert, parce qu'elle est, elle est très expressive, elle est riche, elle est audacieuse, inclassable. D'ailleurs, c'est des compositeurs, surtout Claude Debussy, qui était iconoclaste, enfin, qui était. Ouais.
Mais alors, quand on entend une symphonie de Mahler aussi, quand la harpe apparaît, puis souvent elle est liée à la douleur, enfin, à quelque chose de très poétique, je songe à la 9e symphonie. Où... Ça, il y a quand même des œuvres où aussi la harpe, elle est adaptée, enfin, oui, elle est utilisée de manière magistrale chez Mahler.
Oh, tout à fait, remarquablement. Elle est là, chez Mahler, notamment dans la Davietto, elle a un rôle carrément de soliste, et c'est très beau. C'est très beau parce que on utilise les registres graves de l'instrument, et c'est pas banal, voilà, c'est sûr, c'est un répertoire aussi qui est gigantesque.
Oui, gigantesque. Alors, en même temps, dans l'orchestre, ce qui est... Alors, peut-être aussi ma question, justement, va tomber à côté de la plaque, mais quand on voit, justement, tous ces chefs-d'œuvre qui ont été composés en France ou ailleurs au début du XXe siècle, et puis la manière dont la harpe a été utilisée dans l'orchestre tout au long du XIXe, pourquoi... on sait pourquoi il n'y a pas plus d'œuvres, justement, chambristes ou au XIXe, pourquoi les compositeurs l'ont utilisé avec tellement de bonheur dans l'orchestre, mais moins en musique de chambre, et qu'il a fallu entendre Debussy ou Ravel ou d'autres.
Oui, c'est la facture, et puis c'est la facture de l'instrument qui en fait a été terminée, entre guillemets, enfin, telle que la harpe existe aujourd'hui, qui s'appelle la harpe à double mouvement, et donc qui est la harpe la plus sophistiquée que l'on joue dans les orchestres. Et puis aussi parce que c'est un instrument qui a été supplanté par le piano considérablement au 19e siècle, qui a vraiment suscité auprès des compositeurs romantiques beaucoup, beaucoup de d'œuvres et d'intérêt. Donc, peut-être que l'instrument a souffert de ça aussi. Sans doute, en fait.
En tout cas, Anaïs Godemar, pour en revenir à votre disque qui vient de paraître chez Claves, où vous êtes aux côtés de l'Orchestre de l'Opéra de Rouen, Normandie, dirigé par Léo Hussin. Vraiment trois chefs-d'œuvre, Ginastera, Debussy et Boieldieu. Ces danses de Debussy, au milieu des deux, parmi les deux autres chefs-d'œuvre, c'est quand même une musique incroyable de sensualité et de beauté. Vous, quand l'interprétez, oui, j'imagine que vous, ça a toujours été, enfin, c'est une œuvre qui doit venir au répertoire dès le début, non, enfin, quand on a la capacité technique de le jouer. C'est quand même un des grands chefs-d'œuvre pour harpe et orchestre.
En tout cas, qu'on l'aborde tôt ou un peu plus sur le tard, c'est une œuvre incontournable. Elle est très inspirée. Très inspiré pour, on parle évidemment de Claude Debussy qui était un génie, Très inspirée instrumentalement aussi pour déployer toutes ces couleurs pour et puis j'aime aussi le titre de l'œuvre, donc danse sacrée et danse
Dans.
profane, donc deux danses qui s'enchaînent et puis ça forme parce que c'est absolument unique et en tout cas dans notre répertoire et voilà, pour moi elle révèle encore plus le caractère non conformiste des compositeurs parce qu'on ne sait pas si c'est un concerto, enfin une pièce concertante ou si c'est une pièce de musique de chambre, c'est entre les deux, elle est inclassable, voilà. Donc, il dit qu'elle est pour harpe chromatique ou harpe à pédale par la suite, avec accompagnement d'orchestre à cordes, mais voilà, donc on a voilà. Puis on a un langage debussiste
Oui,
qui est
inimitable et
oui.
effectivement. Et puis c'est le cœur de votre disque encadré par deux œuvres magnifiques. Hein. Il ne faut pas délaisser le concerto de Ginastera qui est vraiment une œuvre magnifique. Et puis c'est inhabituel d'entendre la harpe dans ces conditions. Et puis vous terminez avec ce fameux concerto de Boieldieu. J'espère, Anaïs Gonemar, que j'aurai l'occasion de vous recevoir pour votre prochain disque, à l'occasion d'autres concerts. Et là, on se retrouvera pour d'autres œuvres de Debussy, Ravel ou ces fameux septuors que vous allez créer. En tout cas, bah écoutez, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité et d'avoir évoqué avec nous ce disque consacré à Ginastera, Debussy et Boieldieu. Anaïs Godemard, merci infiniment d'avoir été mon invité.
Merci pour votre invitation.